Je suis content d'être avec vous ce matin. Donc, le message que j'ai ce matin, c'est plutôt un message d'encouragement, de consolation. J'ai entendu dire Bernard ce matin que notre Dieu avait aussi un côté maternel. Et c'est vrai en plus, hein, parce que voir Dieu comme étant un mâle, c'est une aberration, hein. C'est presque un blasphème. Hein. Dieu n'a pas de sexe. Il n'a pas de sexe, Dieu, hein, désolé. Il n'a pas de barbe, il n'a pas de grosses lunettes et il n'a pas les cheveux blancs. Ça, ce sont des hérésies. Il faut ôter ces représentations stéréotypées de nos esprits. C'est faux. Dieu est esprit. Et quand on veut définir Dieu, on le définit, mais ça reste à chaque fois insuffisant pour dire qui il est. On va dire Dieu est amour, Dieu est esprit, Dieu est... Mais personne ne peut dire qui il est. Vous voyez, donc c'est compliqué de définir Dieu et c'est important de doter ces représentations de nos esprits parce qu'elles faussent, elles biaisent notre relation à Dieu. Elles biaisent. Si vous voyez Dieu comme un père, c'est faux. C'est absolument faux. Vous pouvez le voir comme une mère, mais là encore, c'est faux. Si vous voyez comme un père et une mère, c'est faux. Vous voyez, le problème, c'est ça. On peut s'accrocher à quelques représentations, mais attention. Voilà. Mais c'est quand même important de savoir qu'il y a une diversité de caractères en Dieu, dont celui d'une mère ou d'un père. Voilà. Alors, je vais commencer à lire le chapitre, donc je vais commencer par Luc. Alors, si j'ai choisi ce verset ou cette prédication, c'est qu'elle me trottait un peu en tête depuis quelque temps, mais je ne savais pas quand la placer, et puis je ne savais pas trop comment l'aborder, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ce verset m'a toujours procuré beaucoup de joie, et le Seigneur m'a donné de la joie en y repensant, et chaque fois que je lis ce verset, c'est un vrai encouragement pour moi, vous allez peut-être découvrir pourquoi, et je suis sûr que ça va être le cas pour vous. Et l'idée, c'est de vous communiquer un encouragement, une consolation et de la joie ce matin. Alors, passons donc à la lecture. Luc, chapitre 24, et nous allons lire quasiment tout le chapitre. L'idée ici, c'est de se plonger dans un épisode qui a concerné Jésus et ses disciples et de rentrer dans cette histoire avant de la commenter et d'en tirer un enseignement. Alors, résurrection de Jésus, le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe de grand matin en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Jésus venait d'avoir été crucifié et puis il avait été mis dans le tombeau. Comme elles étaient perplexes à ce sujet, voici que deux hommes se présentèrent à elles en habits resplendissants. Toutes craintives, elles baissèrent le visage vers la terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. » Et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Du tombeau, elles s'en retournèrent pour annoncer tout cela aux onze et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres, avec elles, le dire aux apôtres. Mais ces paroles leur apparurent comme une niaiserie, et ils ne crurent pas ces femmes. Vous voyez ? Ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au tombeau, en se baissant, il ne vit que les bandelettes qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Donc vous voyez, c'est dans l'étonnement. Il n'était pas dans la foi, il ne croyait pas, il était juste dans l'étonnement. Et voici que ce même jour, deux d'entre eux, c'est-à-dire des disciples, allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui s'y est produit ces jours-ci ? Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et, n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut devant eux. Et là, c'est le verset qui est le point d'orgue de ce passage. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Écoutez encore, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Voilà, c'est sur ce verset que je voulais parler et travailler ce matin. Alors, ce qui est intéressant dans cette situation d'évangile, c'est que c'est une situation familière. Deux disciples, deux amis, je m'imagine, qui marchent ensemble. Dans une circonstance, je dirais, de drame, de deuil. Ils sont en deuil, ils ont perdu Jésus. C'était leur ami, c'était leur maître. Ce sont des disciples. Ils ont suivi Jésus, ils l'ont écouté, ils lui sont restés fidèles. Quoi de plus familier que de s'imaginer marcher avec quelqu'un ? Ça vous est arrivé, marcher avec un ami, une amie, un parent. Et là, on se serre les coudes, on se dit des choses, on s'interroge, on se parle. Je sais qu'ici, certaines personnes ont perdu parfois brutalement un être cher, une sœur, un père, une mère, parfois des enfants. Il y a des drames parmi nous qui sont survenus et je sais que parfois on a du mal à s'en relever, même des années après. Et on peut parler comme ça les uns avec les autres, se rappeler la mémoire de la personne ensemble. On peut faire un parallèle avec nos vies. Ces disciples qui s'entretenaient de la disparition de Jésus, c'est un peu ce qu'on peut vivre aussi parfois. On peut rester triste alors même qu'on est enfant de Dieu. Vous allez me dire, mais David, ces disciples-là n'avaient pas reçu encore le Saint-Esprit. Ils ne pouvaient pas être consolés. Oui, mais alors moi, je vais vous répondre. Aujourd'hui, moi, je suis converti. J'ai reçu le Saint-Esprit. Mais il peut m'arriver d'être triste. Et parfois, il nous arrive d'être triste. Il nous arrive d'avoir un peu de mal, parfois, à retrouver la joie, alors même que le Saint-Esprit habite en nous. Alors même que nous avons le Consolateur et que nous savons que Jésus est ressuscité. Donc, il ne faut pas exclure, il ne faut pas nier le fait qu'on peut vivre des moments difficiles, des moments de deuil, des moments de tristesse. Donc il s'agit de disciples de Jésus qui sont dans la tristesse et qui ont laissé finalement la peur les gagner. Ils ont laissé la tristesse les gagner, s'emparer d'eux. Ça peut nous arriver aussi. Quand l'événement est brutal, la perte d'un être cher, ça peut être une perte amoureuse aussi, une séparation. On peut se laisser gagner par la tristesse. Donc, ils sont dans cette situation. Et de surcroît, ils sont réunis. Ouais, le Seigneur dit, si deux ou trois sont réunis en mon nom, alors je suis au milieu d'eux. Ben, là, ils étaient réunis en son nom. Ils parlaient de Jésus. Ouais. Donc, on a des disciples qui sont réunis en son nom, qui ont cru en Jésus-Christ, qui aimaient Jésus. Ils n'avaient pas perdu l'amour de Jésus, ces disciples. S'ils étaient tristes, c'est qu'ils aimaient. Ils aimaient encore Jésus. Donc, j'essaie de vous dire, vous pouvez très bien aimer Jésus. Vous aimez Jésus. Vous pouvez être réunis en son nom. Vous pouvez être ses disciples, mais vous pouvez être triste quand même. C'est juste ce que je voulais dire. On peut quand même être triste, ouais, alors que tous ces éléments sont réunis. L'un n'empêche pas l'autre. Mais Dieu ne nous condamne pas. C'est un constat. On peut constater des états tels que ceux-là. Alors, la Bible nous dit que leur cœur était empêché de le reconnaître. On pourrait se dire, ouais, mais là, il y a une magie, vous voyez. Il n'y a pas de magie. Hein. Il y a une magie. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, mais rien ne les empêchait de le reconnaître. Qu'est-ce qui les empêchait de le reconnaître, Jésus ? C'est la tristesse, hein, c'est tout. Hein. Ce n'est pas la peine de penser qu'il y avait une onde particulière de la part de Jésus sur eux. C'est juste la tristesse qui les empêchait de le reconnaître. La tristesse les empêchait de reconnaître Jésus. J'aimerais vous dire que cela peut être le cas pour vous encore aujourd'hui. La tristesse peut vous empêcher de voir Dieu, de goûter à sa présence, de vous réjouir dans sa présence. Alors que vous êtes réunis ici ce matin. Oui, il y a des paradoxes comme ça, ça existe. Donc, ils aimaient Dieu, c'était des disciples, ils le regrettaient, ils se rappelaient peut-être ce que Jésus leur avait dit, mais ils étaient dans la tristesse et ils n'arrivaient plus à le reconnaître. Ils n'arrivaient même pas à le reconnaître alors qu'il était physiquement avec eux. Et que dire de nous qui n'avons pas Jésus sous les yeux ? Allez. Donc, je passe à la deuxième étape de mon raisonnement. Je me dis, ben, dans la Bible, on voit dans ce passage moi, que Jésus se rattache à eux, vient vers eux. Jésus les interroge. Jésus leur fait raconter ce qu'ils vivent. Jésus s'entretient avec eux. En fait, il a une approche douce, vous voyez. Il ne se révèle pas à eux brutalement. Il les approche avec délicatesse et progressivement, il éveille leur conscience. Et c'est souvent comme ça. Vous savez, quand on sort d'un long sommeil de tristesse, on est appesanti. Faut pas s'imaginer que le réveil va être forcément resplendissant. Les choses peuvent se faire petit à petit parce que le Seigneur, son Saint-Esprit, va nous relever. Toujours avec tact et douceur, mais il y a un processus. Il y a un processus de guérison, il y a un processus de relèvement, il y a un processus de consolation. Et c'est ce que Jésus fait. Jésus marche avec eux, s'entretient avec eux, les interroge. Et là, ce qui est incroyable dans ce texte, je relis. Et ils se dirent l'un à l'autre. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Vous voyez, juste avant, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Donc il a fallu tout ce chemin pour que leurs yeux s'ouvrent. Alors qu'est-ce que le Seigneur a fait ? Il a marché avec eux. Il les a interrogés. Il les a fait réfléchir. Il leur a parlé. Il est rentré avec eux dans une maison. Il s'est assis avec eux. Rendez compte, il y en a des étapes. Hein. Il a rompu le pain pour eux. Et il a partagé le pain. Il y a un processus, là, vous voyez. Jusqu'alors, leurs yeux ne s'ouvraient pas. Mais il se passait quelque chose. Caché, qui était caché. leur cœur brûlait. Leur cœur commençait à brûler. Et ils se sont révélés après. Mais leur cœur était en train de brûler. Au fur et à mesure que Jésus leur parlait, participait et était en interaction, leur cœur brûlait. Et c'est lorsque leur cœur s'est embrasé, c'est-à-dire lorsque leur cœur a véritablement repris, qu'ils l'ont vu. Voyez, mais leur cœur brûlait au fur et à mesure. Il y a ce processus de... La flamme est rallumée, le lumignon qui fume, un peu comme un bâton d'encens, vous voyez, parfois ça fume, vous allez dire, il va s'éteindre. Non, mais là, ça reprend. Leur cœur brûlait et il a fallu que Jésus aille jusqu'à rompre le pain et le leur donner, voyez. Ça demande une certaine intimité dans cette situation, ça demande un certain travail de la part de Jésus. Et Dieu, je pense, quand il voit, il sait qu'on est éloigné de lui, qu'on est fermé à son appel, qu'on est hermétique à cause de la douleur, à cause de la tristesse, à son esprit, il doit se dire, mais comment je vais réussir? Comment je vais réussir à relever telle personne, ce jeune homme, cette jeune fille, cet homme, cette femme, etc. Vous voyez, c'est un travail. Dieu travaille. Dieu n'est pas ignorant de nos états. Dieu n'est pas indifférent. Ouais, merci à cela. Il agit par étapes et il fait les choses dans l'ordre jusqu'à ce que nous puissions être relevés et consolés. Et le cœur se met à brûler. Et ça, c'est incroyable. Alors, maintenant, je passe à la troisième partie. J'aimerais vous demander, depuis quand est-ce que vos cœurs n'ont plus brûlé? Depuis quand est-ce que vos cœurs n'ont pas brûlé? À l'écoute d'un, à la lecture d'un verset, à l'écoute d'une louange, d'une musique de dévotion. Depuis quand est-ce que vos cœurs n'ont pas brûlé? C'est une bonne question parce que si le cœur ne brûle pas, il n'y a pas la vie. Ouais, regardez ce qui est écrit. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Le verset 33 qui suit immédiatement. Ils se levèrent à l'heure même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les 11 et leurs compagnons. On est compte. Une fois que leur cœur a brûlé, ils se mirent à changer de route. Ils décidèrent autre chose. Ils prirent des initiatives. Ils retournèrent à Jérusalem. Ils se retrouvèrent pleins de force. Il y a eu autre chose qui s'est passé dans leur tête. Ils avaient envie d'autre chose. Ils désiraient, ils aspiraient à autre chose. Voyez ? Aussitôt, à l'heure même, c'est-à-dire que c'est un peu comme si leur sang n'avait fait qu'un tour à ce moment-là. Ils se retrouvèrent pleins d'énergie. Et c'est là qu'on voit que le cœur est le siège de la, je dirais, de la restauration. En général, lorsque je suis abattu, c'est mon cœur qui est frappé. Le cœur, c'est le siège des sentiments. Le cœur, c'est le siège de la foi aussi. C'est là. On leur avait dit, les femmes avaient vu les anges. On leur a rapporté que le tombeau était vide. Eux-mêmes le savèrent. C'est eux-mêmes qui le disent à Jésus. Ils avaient entendu que les femmes avaient vu, etc. Oui, Pierre lui-même était allé. Il avait constaté lui-même qu'il ne restait plus que les bandelettes. Ils avaient entendu les messages de Jésus. Ils avaient été disciples de Jésus. Ils avaient entendu l'enseignement. Jésus disait qu'il allait les quitter. C'était annoncé, ils auraient pu s'en souvenir. Mais vous voyez qu'une fois que le cœur est frappé, c'est terminé. Tout ce qu'on a pu vous dire, ça peut s'envoler, simplement parce qu'il y a une chape, il y a un voile de tristesse qui vient et qui brouille votre intelligence. Jésus le leur dit, homme sans intelligence, ou homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire. Oui. Comme son intelligence. C'est-à-dire que une fois que le cœur a été affecté, l'intelligence n'y est plus. Il n'y a plus d'intelligence. Donc il y a l'intelligence du cœur, vous voyez, c'est pas juste l'intellect, ça n'a rien à voir, rien à voir. C'est le cœur. En fait, nous sommes des créatures dotées de sentiments, et le cœur, c'est pas le cœur, hein, c'est notre être fonctionne et vit grâce à des concepts qui sont impalpables, l'amour, la joie, etc. Donc, comment relever un cœur? Comment relever un cœur? Il n'y a pas de médicament pour ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de traitement pour guérir un cœur. Il n'y en a pas. Allez, m'en chercher un. Ça n'existe pas. Il faut des paroles. Il faut des paroles. Jésus leur a parlé. Ce sont les paroles de Jésus qui ont relevé leur cœur. Les paroles de Jésus ont relevé leur cœur. N'est-ce pas? Et quand Jésus leur parlait, leur cœur brûlait. C'est cela qu'il faut retenir. Alors ma question, c'est depuis quand est-ce que votre cœur n'a plus brûlé? Si votre cœur ne brûle pas aujourd'hui, posez-vous la question, est-ce que vous êtes mort? Pas dans le sens spirituel, mais est-ce que vous êtes mort à l'appel de Dieu? Est-ce que vous êtes en train de vous effondrer? En train de vous enterrer? Est-ce que la tristesse a eu raison de vous? C'est ça. Est-ce que votre cœur est bien brûlant? Posez-vous la question. Est-ce que votre cœur est bien brûlant? Et qu'est-ce qui fait brûler votre cœur? Qu'est-ce qui le fait brûler? Si vous avez une vie monotone, sans flamme, sans que votre cœur ne brûle, vous devez vous inquiéter. Et ça, ça signifie que vous avez besoin que Jésus marche avec vous. Vous devez l'appeler. Que Jésus s'entretienne avec vous, qu'il vous interroge. Il va vous interroger. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi te comportes-tu comme ça? Qu'est-ce qui t'a attristé? Raconte-moi. Il faut qu'il y ait un dialogue qui se noue avec votre Seigneur, n'est-ce pas? C'est la seule façon de dénouer le cœur. Sinon, votre cœur ne s'en sortira jamais. Votre cœur restera triste. Il faut bien qu'il y ait une interaction entre Jésus et vous. Ça ne se fera pas d'un coup de baguette magique. Il faut qu'il y ait une rencontre, une interaction. Et ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Le Saint-Esprit, Jésus a dit « je vous enverrai ». Donc le Saint-Esprit, il peut faire quelque chose, ce travail en vous. Mais il faut le lui demander. Notez bien que les disciples ont invité Jésus à venir. Ils étaient tristes. Ils l'ont invité. Hein, « reste avec nous ». Ils le pressèrent. Donc ils étaient tristes, et lorsqu'on est triste, on demande de l'aide. La réaction naturelle de l'homme et de la femme, en situation de tristesse, c'est de se cacher. C'est de ne rien dire, c'est de ne plus parler. C'est de se rester dans un lit. C'est la dépression. C'est ça la dépression. Donc là, Jésus, lui, il a les paroles de la vie et il est capable de faire brûler votre cœur. Donc demandez-vous, j'insiste, demandez-vous ce qui fait brûler votre cœur. Et demandez-vous s'il brûle. Et si votre cœur est un lumignon qui fume, c'est dans la Bible, alors je vais prendre le verset, Matthieu 12, 18, 21. Sachez que le Seigneur ne va pas l'éteindre. Matthieu 12, 21. 12, 18, 21, pardon. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. Il annoncera la justice, on parle de Jésus, aux nations. Il ne contestera pas, il ne criera pas, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le roseau froissé. Peut-être êtes-vous un roseau froissé. Il ne brisera pas le roseau froissé. Et il n'éteindra pas le lumignon qui fume. Jusqu'à ce qu'il ait donné la victoire à la justice. Et les nations espéreront en son nom. Vous voyez, je termine par ce verset. Et les nations espéreront en son nom. Et vous espérerez en son nom. Car il n'éteindra pas le lumignon qui fume. Au contraire, il ravivra ce lumignon. Il ranimera la flamme. Et le lumignon, vous savez, ça fait peur. C'est, lorsque la flamme va s'éteindre, on se dit, oula, après c'est fini. La chaleur s'en va, disparaît. Que restera-t-il, n'est-ce pas ? Mais le Seigneur n'est pas quelqu'un qui éteint le lumignon. Au contraire, il souffle dessus pour qu'il reprenne, pour que la vie reprenne, n'est-ce pas ? Et ça, c'est vraiment très important. Donc, je suis désolé de le vous dire. Je peux vous annoncer ce message avec l'intention de vous encourager, avec l'intention de vous remettre en selle, en vous donnant une aide, un tuyau, excusez-moi l'expression, pour que vous ayez le courage de dire, si je suis triste, si mon cœur est attristé au point que ma flamme ne soit plus qu'un lumignon, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je tende la main à Jésus pour qu'il me secoure. Mais on ne peut pas le faire à votre place. Toutes les prédications du monde sont impuissantes pour le faire. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Je regrette de le dire. Je n'ai aucun pouvoir. Aucun pasteur n'a le pouvoir de relancer votre cœur. Personne. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Mais ça demande que vous vouliez le faire également. Vous acceptiez de l'aide. Donc, cette œuvre du cœur, elle appartient à Jésus seul. Elle appartient à Dieu seul. Dieu seul peut travailler le cœur. C'est un organe trop délicat, au sens figuré, pour qu'il soit guéri par un médecin, un thérapeute. Ce n'est pas possible. Vous voyez ? Donc, ce que j'aimerais vous dire, puisque s'il s'agit d'une prédication courte et simple, c'est demandez-vous quels événements vous ont plongé dans la tristesse. Soyez honnête. Dites-vous, je vis ou je survis peut-être. Je me suis refroidi. Je ne suis que l'ombre de ce que Jésus aurait souhaité que je sois, que je vive avec mes frères, avec lui. Et priez le Seigneur de venir vers vous. Un peu comme dans cet épisode où Jésus est venu vers les deux disciples et essayer de faire ce chemin avec Jésus. Vous voyez ? Que ce passage soit vraiment un encouragement pour vous parce que c'est une image qui nous est familière. On se dit, tiens, c'est tellement bien que quelqu'un puisse nous rejoindre, nous parler. C'est sympa quand on rencontre quelqu'un dans la rue qui nous rejoint et qui nous apporte de la paix, de la joie. C'est ce que Jésus a fait. Et nous en avons tous besoin. Il y a un dernier verset avec lequel je terminerai, Jean 6, 68 à 69. À un moment donné, certains disciples disent à Jésus, d'une certaine façon, mais tes paroles sont trop dures, ce que tu dis là, c'est trop compliqué. Voilà, trop compliqué. Et ils partirent. Et Pierre, lui répondit à Jésus, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. À qui irions-nous ? Pour la guérison du cœur, dites-moi, à qui irez-vous ? » Alors, je ne suis pas contre les thérapeutes, attention. Il faut consulter s'il y a un souci. Ça, pas de problème, il y a des bons techniciens. Bon, allez-y. Ils peuvent vous aider jusqu'à un certain stade. Ils vont vous aider, ils vont vous donner des moyens de surmonter. Mais la joie du cœur, la vraie réparation du cœur, la guérison du cœur, le fait que le cœur se remette à brûler, ça ce n'est pas possible pour un thérapeute. Un thérapeute peut vous aider à surmonter un moment difficile. Mais pour ce qui est de rallumer la flamme, il n'y a que le Seigneur, je suis désolé. Il n'y a que le Seigneur. Que le cœur se remette à brûler, il s'agit d'un miracle. C'est un vrai miracle, parce que c'est le Saint-Esprit qui communique cette joie. Donc à qui irions-nous d'autre ? Pourrait-on dire en écho avec Pierre ? Le Seigneur a les paroles de la vie éternelle. Donc je vais prier pour vous, parce que je sais que qui que nous soyons, nous avons des raisons parfois, nous pouvons avoir des raisons d'être tristes et de ne pas nous en sortir. C'est, comme le disait Bernard, la fête des mères. Et Jésus peut être une mère pour nous. Et il peut nous consoler aujourd'hui et nous relever et nous aider dans un processus. Surtout, retenez, il s'agit d'un cheminement. Un cheminement, d'accord, et d'un partage. Donc je vais prier pour vous, pour que vous puissiez être encouragé, consolé si vous en avez besoin, parce que c'est la volonté de Dieu. On avait vu récemment que il était de la volonté de Dieu qu'on soit guéri physiquement. Eh bien, c'est aussi la volonté de Dieu que vous soyez consolé, guéri dans votre cœur. Les blessures du cœur, c'est les pires. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, mais les blessures du cœur, c'est les pires. C'est celles qui vous abattent. Un homme, le plus costaud des hommes, est abattu lorsqu'on frappe le cœur. Alors, je vais prier pour vous. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour ta bonté envers ces deux disciples qui étaient tristes. Merci de les avoir rejoints. Nous pouvons nous identifier à ces deux disciples lorsque nous nous trouvons les uns les autres. Seigneur, nous te prions de venir à nous, de venir nous encourager, de venir nous parler, de venir nous relever, faire brûler nos cœurs. Nous voulons également nous laisser relever, nous laisser restaurer par toi. Nous voulons te presser d'entrer dans notre maison. Nous voulons te presser d'entrer dans nos cœurs pour que tu y fasses ton œuvre, pour que tu nous guérisses, pour que tu nous communiques ta joie, ta foi, ton espérance, pour qu'à nouveau nous croyions, pour qu'à nouveau nous nous souvenions, pour qu'à nouveau nous espérions. Oui Seigneur, merci pour cet épisode qui nous concerne tous, que nous nous approprions, parce que cela nous appartient également. Il s'agit d'un testament, d'un héritage. Il est pour nous. Nous sommes ses disciples sur le chemin. Nous sommes tous en chemin. Et nous avons besoin que tu nous rejoignes. Nous avons besoin de nous saisir de ce moment-là pour guérir. Je te prie pour les cœurs brisés ici. Il y a des mamans, il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des papas. Il y a des personnes qui ont perdu des êtres chers. Il y a des personnes qui ont vécu des séparations douloureuses. Il y a des personnes qui ont vécu des trahisons. Il y a des personnes qui ont le sentiment parfois que tu es loin d'eux et ils ne comprennent pas pourquoi. Un peu comme ces disciples qui sont en deuil, qui ne voyaient plus leur Seigneur. Il peut arriver que certains d'entre nous avions le sentiment que Dieu les a abandonnés. Mais ce n'est pas vrai. Dieu n'abandonne personne. C'est faux. Dieu n'abandonne personne. Dieu va vous rejoindre. Jésus va vous rejoindre et il va envoyer son Saint-Esprit pour vous consoler. Croyez-moi, on traverse il y a des traversées du désert dans la vie d'un chrétien. Moi-même, j'en ai traversé. Il y a des moments où on ne voit rien. Il ne se passe rien. On ne voit pas la main tendue de Dieu. Et alors, ne préjugeons pas de cela que Dieu est absent, que Dieu nous a oubliés ou que Dieu nous laisse, nous abandonne. C'est faux. Il y a un temps pour que Dieu nous rejoigne. Il y a un temps. Il faut patienter. Il faut espérer. Et il faut croire. Seigneur, console les cœurs en ce jour. Seigneur, accompagne, fais grandir pour que aucun sujet de tristesse ne soit l'occasion d'un abattement. Que tous les cœurs puissent être relevés, que ce message puisse être conservé dans les mémoires ce soir, que chacun puisse se mettre devant Dieu en disant « Seigneur, est-ce que mon cœur brûle ? Ou est-ce qu'il est abattu ? Est-ce que mon cœur brûle pour toi ? Comment est-ce qu'il brûle ?» Voilà ma prière pour vous et ma prière pour moi-même. Parce que moi-même, j'ai besoin que le Seigneur fasse brûler mon cœur. Quand je suis triste, ça peut m'arriver. Et m'interroge et me fasse grandir. Amen.